Et nous revoici toujours en direct, en live et en public du Salon du Livre de Verneuil d'Avre Éditons à l'occasion de sa 10e édition. Nous continuons les échanges, nous continuons les rencontres avec les auteurs et ceux qui font la vie également de ce festival. Sandrine, oui. Eh bien, tu es venue avec une nouvelle invitée, si j'ai bien tout suivi.
Tout à fait, avec Isabelle Alonso que nous avons la chance d'accueillir ici au Salon du Livre de Verneuil. On vous retrouve avec
Bonjour.
Plaisir.
Bonjour,
pardon, excusez-moi, j'ai tellement peu l'habitude. Ça va venir, hein ?
Oui, ça va aller très bien, vous allez voir.
Donc on vous retrouve avec plaisir depuis début septembre dans l'émission présentée par Daphné Burki sur France 2, Je t'aime, etc. Oui. Donc deux fois par semaine. Et mercredi dernier, on peut pas voir Isabelle Alonso sans parler des femmes.
Et on peut, disons que c'est la première idée qui vient manifestement.
Oui, tout à fait.
Oui, on peut aussi parler littérature, mais là je sens qu'on va parler voilà, des femmes, mais ça me va très bien.
Tout à fait, puisque mercredi dernier vous avez retenu mon attention et vous avez parlé de militantes en fait antiféministes et de leurs affiches.
Oui. Les petites affiches anti-féminicides qui se multiplient sur les murs de Paris et aussi d'autres villes de France et dont je trouve le message extrêmement clair, extrêmement puissant. Ce sont des petits carrés blancs en papier. Sur chaque carré, il y a une lettre. Et la lettre fait un message qui indique soit le nom d'une femme tuée par son compagnon, c'est-à-dire par l'homme qu'elle a un jour considéré comme son amoureux. Hein. C'est là qu'on mesure tout le drame que ça peut être. Ou alors sur un fait, genre dans 24 heures, une femme sera... assassinée par son compagnon quoi. Et donc je trouvais que c'était une très belle action qui me fait sentir à la fois très triste parce que ça constate et très fière de la capacité de réaction des militantes, de mes sœurs militantes je pourrais dire. Et donc voilà.
Et des risques qu'elles prennent puisque...
Et donc je suis j'ai été assez scandalisée du fait que ces affiches-là aient été traitées comme n'importe quelle affiche pour un spectacle ou pour n'importe quoi, n'importe quelle publicité, qu'elles étaient considérées comme illégales et qu'elles aient été effacées et que les militantes aient eu à payer des amendes. Je trouve ça d'une tristesse et tellement significative de ce que signifie se battre pour ces femmes qui n'arrivent même pas à faire sortir du silence. Le silence, c'est la prison des femmes. C'est parce que tout ça est dans le silence que ça peut continuer. Et quand on essaye de parler fort et au moins de dire les choses avec les tout petits moyens, ça sont des filles qui ont pris sur leur temps de découper les petits carrés, de faire les lettres, d'aller les coller et tout. On les efface et en plus on leur met une amende pour parce qu'elles salissent les monuments ou les édifices publics. Voilà, c'est tellement triste dans des villes où toutes les rues portent des noms d'hommes. Hein, il n'y a que 5% des rues, je crois, 5 ou 8% des rues dans ce pays qui portent des noms de femmes. Et même des fois, on ne sait même pas que c'est des femmes. Hein. Qui sait que le boulevard Rochechouart rend hommage à une femme? Personne. Et donc, le silence est la maison des femmes. Et voilà que... cette tentative de les sortir du silence se trouve punie par les pouvoirs publics.
Est-ce que, je me permets, vas-y, Sandrine, parce qu'on a beau parler féminisme, oui. ça m'interpelle tout
oui,
autant,
bien sûr.
Parce que clairement, ce n'est pas une question de femme, en fait, cette question
du féminisme. C'est un peu une question de femme en ce qui concerne les victimes, mais certainement oui, pas en ce qui concerne l'action qu'on peut mener contre, bien sûr.
Tout à fait. Il y a aussi une histoire d'époque. L'époque a mis beaucoup de temps, effectivement, à mettre la femme et la féminité, en tout cas, au même rang que l'homme. On en est peut-être pas encore tout à fait
non,
à l'aboutissement d'ailleurs.
Pas du tout, mais on avance.
Mais on avance, et exactement. C'est une histoire d'époque aussi, et comment on avance aussi avec notre propre civilisation, presque, j'ai envie de dire, où on place la femme.
Ce qu'on peut dire quand on est une femme, et j'en suis une, c'est que je ne pense pas pouvoir imaginer, en tant que femme, une meilleure époque pour vivre, ni un meilleur endroit. J'ai la chance de vivre en Europe occidentale en ce début de 21e siècle. Je ne crois pas qu'il y ait eu une seule période historique, ou alors il faudrait remonter dans des époques tellement lointaines qu'on n'en a aucun souvenir, qui ait été aussi, non pas aussi favorable aux femmes, mais aussi peu défavorable, on va dire, hein, puisqu'on est encore un peu dans le négatif. La preuve, il y a plus de 100 femmes dans ce pays qui meurent, parmi bien d'autres horreurs, qui meurent assassinées par leurs compagnons. Donc bien sûr que oui, bien sûr que que oui, c'est une, pour nous, c'est une époque hyper bénéfique et positive. Et j'espère bien qu'on va continuer à faire avancer les choses.
Et j'ai la sensation aussi que ça s'accélère. Enfin, plus on avance, plus ça s'accélère. Enfin, je pense à plein d'actions comme il y a 2 ans, je crois, il y avait l'action Balance ton porc. Il y avait qui était MeToo. Voilà, il y avait toutes ces actions-là. J'ai l'impression que finalement, ça s'accélère et notamment à travers la diffusion numérique, à travers tous ces outils-là et pas forcément à travers ce qu'on appellerait les médias mainstream. En tout cas, le réseau direct fait son œuvre.
L'avenir le dira. L'avenir le dira, puisqu'il y a déjà eu historiquement des périodes de grandes avancées des droits des femmes qui ont été immédiatement suivies par des périodes de grand recul. Et certaines d'entre elles sont encore dans la mémoire, en tout cas dans la mienne. Il y a eu dans les années 70, début 80, un très grand mouvement qui a beaucoup fait avancer la cause, on va dire, qui a été suivi dans les années 90 parce que Suzanne Faludi, une féministe américaine, a appelé backlash le retour de bâton. Retour de bâton qui a fait reculer beaucoup de choses. Donc, on avance sur certains plans, on recule sur d'autres. Exemple, hier, c'était la journée de l'avortement. Les droits de l'avortement reculent dans beaucoup d'endroits, y compris en France. Il faut savoir que l'avortement qui est très spécifiquement une question de femme est encore aujourd'hui décidée, votée, appliquée par des hommes, et que ça, c'est une injustice criante. Donc, j'espère que vous dites vrai, Conné. Alors, je voulais juste ajouter une petite chose qui est très intéressante, c'est que les femmes ont toujours été isolées les unes des autres. Hein. Demandez-vous toujours pourquoi on appelle ça une cellule familiale. Cellule.
C'est vrai.
Et donc, les femmes étaient isolées et que, effectivement, les réseaux sociaux sont en train de casser cet isolement et que, donc, c'est une manière de sortir du silence et MeToo en est la preuve.
D'ailleurs, vous pouvez trouver des informations sur HuffPost, donc HUFPOST.fr.
Très bien, et puis c'est surtout être en lien en tant qu'humains tous les uns les autres qui fait avancer aussi ces questions-là.
On a la grande chance aujourd'hui de pouvoir compter sur beaucoup d'hommes qui prennent fait et cause pour nous, de notre côté. Ça n'est pas complètement nouveau, ça a déjà existé historiquement, mais là aussi, ces hommes-là sortent du silence et de l'isolement. Donc ça se présente pas trop mal, cette affaire, enfin j'espère.
Merci Isabelle.
De rien.
Merci beaucoup d'être passé par nos micros. Je me retourne vers notre amie Lily et je vous invite très cher à nous envoyer un petit peu de musique, si vous le voulez bien, le temps d'accueillir notre prochain invité. Voilà, du rock'n'roll de Barbe Noire, issu également de la scène régionale qu'on peut voir sur toutes les scènes du coin. Ils sont en train de mettre le feu à beaucoup de scènes actuellement. Barbe Noire a le vent en poupe et c'est pas pour nous déplaire.
Principe actif, l'équipe des bénévoles, tout à la fois techniciens et journalistes. Tous ont en commun de faire une radio libre.
À Évreux, sur 102.4, dans le sud de l'Eure, sur 95.9.
Principe actif, le mix des cultures.
Et nous allons poursuivre à mixer de la culture, comme le disait très bien ce jingle, avec les rencontres que nous faisons sur ce salon du livre de Verneuil d'Avre Éditon, si c'est je ne dis pas de bêtises. Mais non, mais depuis qu'ils ont changé
ça
le nom de la commune.
Ça n'existe plus, Verneuil-sur-Avre.
Ben oui, c'est ça, Verneuil d'Avre Éditon, exactement. Et vous voyez, ça fait 2 ans et j'ai toujours du mal à m'y mettre. À l'occasion de la 10e édition, justement, de ce salon du livre. Et justement, Sandrine.
Oui.
On avait dit on va chercher des invités de marque. Et toi, t'as directement tout en haut. Pourquoi
sans
ça donc
hésitation.
Bah, dis-moi donc.
Eh bien, parce que le prix Geneviève Moll, donc le prix du salon, vient d'être remis à Brigitte Benkemoun, qui est d'ici 3 ans.
Bonjour Brigitte.
Donc, pour le livre qui s'intitule « Je suis le carnet de Dora Maar », qui est sorti cette année. Donc, Dora Maar, de son vrai nom, Henriette Dora Markovitch. Si je ne m'abuse.
Henriette Théodora Markovitch.
Ah, j'ai oublié un prénom.
Voilà.
Donc une artiste engagée à la fois photographe, peintre, dessinatrice, poétesse. Elle passera sa vie de femme moderne, libre et audacieuse au milieu des hommes et du mouvement surréaliste. Elle a d'ailleurs été inscrite à l'Académie Julian I et à l'École des Beaux-Arts qui avait l'avantage d'offrir le même enseignement aux femmes qu'aux hommes. Donc ce carnet, parlez-nous-en.
Alors ce carnet, c'est son carnet d'adresse. Mais j'ai pas su tout de suite que c'était son carnet d'adresse. C'est mon mari qui avait perdu un petit agenda en cuir. Et le fabricant ne faisait plus le même dans le même cuir. Comme il était très attaché à cet objet, il est un petit peu contrarié. Je lui ai suggéré d'aller sur eBay, voir s'il ne trouvait pas le même d'occasion. Et en effet, il l'a trouvé exactement le même qu'il a acheté. Et quand le paquet est arrivé, c'est moi qui étais à la maison, donc je l'ai ouvert et j'ai vu que à l'intérieur de ce petit étui en cuir, ils avaient oublié d'enlever un petit répertoire téléphonique. Mm-hmm. Et donc le répertoire téléphonique, je l'ai ouvert et j'ai trouvé les noms d'Aragon, Breton, Éluard, Cocteau, Braque, Brassailles, enfin tout le gratin de l'intelligentsia de l'après-guerre, parce que ce carnet était daté, il n'y avait pas le nom de sa propriétaire, mais le carnet était daté de 51. Et donc j'avais là entre les mains une sorte d'annuaire intime des plus grands artistes de l'après-guerre.
Et comment avez-vous su qu'il appartenait à Dora Maar ?
Alors, j'ai commencé par comprendre que c'était le carnet d'une femme parce qu'il y avait coiffeuse et un institut de beauté. Après, je me suis dit, c'est forcément une peintre parce qu'elle a des galeristes, elle a un réentoileur dans ses contacts. Après, je savais qu'elle a été proche des surréalistes parce qu'il y avait vraiment beaucoup de surréalistes, des poètes dans ce carnet d'adresses. Et puis, j'ai fini par... Il y avait Lacan, donc je savais j'imaginais qu'elle avait été analysée par Lacan. Et puis j'ai commencé à détailler les noms qui n'étaient pas identifiables comme ça au premier abord. Et il y en a un sur lequel je butais, je lisais Achille de Ménerbe. Mm-hmm. Et puis à la loupe, j'ai fini par voir que c'était architecte Ménerbe. D'accord. Et là, d'un coup, je me suis dit, c'est une femme qui a vécu à Ménerbe. C'est un petit village du Luberon dans le sud de la France et qui a dû avoir besoin d'un architecte. Donc je suis allée sur le Wikipédia de Ménerbe et j'ai vu qu'une seule femme artiste avait vécu à Ménerbe, c'était elle.
Et vous avez mis combien de temps pour mener cette enquête ?
Alors, arrivée à elle, j'ai dû mettre 3 mois, mais tout tranquillement, sans être acharnée. Et puis après, ça m'a pris bien 2 années, parce que ce que j'ai voulu faire, c'est... J'ai pas voulu faire une biographie classique. Mm-hmm. Je me suis dit, j'ai ce carnet en main, j'ai cette pièce à conviction en main, je vais la faire parler, comme si j'étais un enquêteur avec un témoin clé. Mm-hmm. Et donc, l'idée, c'était de demander à chaque nom de ce carnet d'adresse de me raconter pourquoi il est dans le carnet, pourquoi il était dans sa vie.
Quelle rencontre.
Donc voilà, chaque chapitre, c'est un nom, une adresse, un téléphone. Et voilà, Éluard, essayer de comprendre depuis quand ils se connaissaient, qu'est-ce qu'ils ont vécu ensemble. Donc finalement, c'était beaucoup plus long et compliqué que ce que j'imaginais, mais c'est passionnant.
Passionnant, voilà.
Moi, j'ai passé 2 ans extraordinaires.
Elle a été l'amante de Pablo Picasso.
Ben oui, c'est la grande histoire de sa vie.
Et comment se sont-ils rencontrés ?
Alors ils se sont rencontrés, la scène est assez légendaire, ils se sont rencontrés dans un café du boulevard Saint-Germain au De Magot. Et en fait, elle vient dans l'intention de séduire Picasso. Elle veut devenir la maîtresse officielle de Picasso. Et elle l'a repéré, elle sait qu'il va venir, elle le voit entrer. Et quand il s'assied à sa table, elle fait un peu comme si elle faisait pas attention à lui. Et elle enlève son gant, elle sort un canif qu'elle a dans son sac et elle se met à planter le canif entre ses doigts. De plus en plus vite, de plus en plus près, si bien qu'elle finit par se faire saigner. Et puis, quand le spectacle est terminé, elle renfile son gant. Et Picasso est évidemment subjugué. Alors, il ne se passera rien ce soir-là, mais Picasso lui demande quand même de lui donner le gant avec lequel elle a essuyé son sang. Et quand on réfléchit bien, vu la relation qu'ils auront ensuite, elle lui indique dès le départ jusqu'où elle est prête à aller avec lui. Regarde jusqu'où elle est, je suis prête à aller pour toi, je suis prête à saigner pour toi. Et ça indique bien le type de relation assez sadomaso qu'ils vont avoir pendant une petite dizaine d'années.
Donc quelle influence a-t-il sur elle ?
Énorme. Il y a certes un avant Picasso où elle est une grande photographe, mais ces 10 années avec Picasso, elle est complètement sous la... C'est une femme complexe parce qu'elle est à la fois très autoritaire, de caractère. Elle est partie très libre. Dans les années 30, elle est partie en reportage seule dans des quartiers populaires en Espagne, en Angleterre. Donc c'est une femme extrêmement culottée qui a une sexualité très libre aussi. Avant Picasso, elle a été la maîtresse de Georges Bataille. Donc c'est dire ce qu'elle a pu vivre. On n'en sait rien, mais voilà, ça laisse entendre quand même quelque chose d'assez sulfureux. Et puis à partir du moment où elle tombe sous la coupe de Picasso, il ne va n'avoir de cesse de la dominer. Et elle va se laisser dominer et se laisser un peu maltraiter, parce que ce n'était pas un tendre.
On vient d'avoir Isabelle Alonso, on vient justement de parler
des hommes dangereux.
Voilà.
Ben c'était un homme dangereux, je pense qu'il serait là, on serait sous son charme, parce que c'était un charisme incroyable. Il est à peine plus grand que moi, Picasso, mais en même temps, les gens qui sont autour de lui sont fascinés par lui. Vous verriez les phrases de Cocteau quand il parle de Picasso, elles sont à la limite du ridicule. Elles ne sont même pas à la limite, il y en a quelques-unes qui sont totalement ridicules. Cocteau, parlant de Picasso, peut dire « le génie lui sort par tous les trous comme un lot d'un arrosoir ». C'est du Cocteau, ça.
D'accord.
Et donc voilà, il rend les hommes et les femmes assez éblouis. C'est un charisme, mais en même temps, c'est ce qu'aujourd'hui on appellerait un pervers narcissique.
Aussi.
Tout simplement.
Il la quitte ?
Il la quitte quand il en trouve une plus jeune.
Comme beaucoup.
Voilà.
Qui s'appelle, donc c'est, pas de commentaire.
Donc c'est Françoise Gillot, et elle a à peine 21 ou 22 ans quand il la rencontre. Lui en a plus de 60. Et très vite, il passe de l'une à l'autre. En plus, Françoise Gillot ne veut pas laisser Picasso faire ce qu'il a l'habitude de faire. Picasso, en général, il aime bien conserver tout le monde. C'est-à-dire quand il rajoute une femme à son cheptel, elle dit non. Il fait un harem. Et puis, il aimerait bien en conserver dans le hangar, dans le grenier, comme ça.
Les ranger, voilà.
Elle dit non, moi, je ne rentre pas là-dedans. Donc, pour garder Françoise Gillot, il est obligé de rompre définitivement avec Dora, de rompre aussi avec Olga, qui était... Olga, il l'avait déjà quittée, de rompre avec Marie-Thérèse, qui était aussi l'une de ses maîtresses à cette époque-là. Donc voilà, elle, évidemment, la rupture est une douleur terrible, c'est une tragédie. Elle sombre dans la dépression et à la limite de la folie, puisqu'elle va être internée et soumise à des électrochocs.
Quel type d'œuvre a-t-elle réalisé, Dora Maar ?
Alors, c'est une grande photographe. Quand on voit son travail photographique est très, très reconnu depuis longtemps. Il y a différents axes de ce travail. Il y a un travail de reportage, il y a un travail de collage surréaliste, il y a un travail de réclame, c'est la publicité, on appelait la réclame. Et puis, quand elle rencontre Picasso, les gens disent qu'il l'a forcé à arrêter la photographie. Moi, je n'ai pas l'intuition que c'est lui qui l'a forcé. Je pense que quand on vit avec Picasso, on a envie de peindre. Et donc, elle renonce à la photographie à partir de 37.
D'accord.
Et là, elle ne va cesser de peindre, et sans jamais connaître le succès, parce que c'est pas une grande peintre. Elle a une œuvre qui est parfois intéressante, mais il y avait tellement de grands peintres à l'époque. Elle a jamais percé, mais pendant 50 ans, elle a peint en vivant de plus en plus recluse, de plus en plus isolée. En passant de la psychanalyse à un catholicisme à la lisière de l'intégrisme. Ce qui fait que l'isolement, ce catholicisme mal digéré, ont produit une évolution assez étonnante de cette femme qui démarre. Il faut savoir, quand on la prend dans les années 30, elle est à l'extrême gauche, elle est antifasciste, elle milite contre la montée du nazisme, etc. Et quand elle, dans les années 80, c'est une vieille dame recluse, renfermée sur ses aigreurs, ses obsessions, et qui devient antisémite, qui a Mein Kampf chez elle. Donc voilà, c'est le destin d'une femme sous influence, qui est passée par différentes influences et qui a terminé par les moins bonnes.
Très bien. Mais écoutez, j'espère que l'interview vous aura donné envie de lire avec une grande attention donc ce carnet. Je suis le carnet de Dora Maar, pardon, donc de Brigitte Benkemoun.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et nous poursuivons nos échanges et nos rencontres juste après un petit moment musical. Ça vous va, Lily? Je vois que vous faites des pouces avec vos doigts là. Eh bien, je vous en prie, mettez-nous un peu de musique.
Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille, avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage. Assez dommage, c'était la dernière fois.
Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine.
Ah, elle aurait dû y aller, aurais-tu le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.
Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer.
Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.
Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée.
Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, on a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des...
Voilà, c'était un morceau qui a été choisi par Calista, qui est à mes côtés. Donc bah, tu vas carrément nous dire ce qu'on vient d'écouter. On vient d'écouter quoi?
On vient d'écouter Big Fleoli. Et moi, c'est Calista Gineste Suarez. Et vous me connaissez, hein, Juliane, Louise, Justine, Ivana.
Alors voilà, ça y est, c'est les dédicaces, c'est jeune, on leur donne un micro et c'est fini, ils nous retournent cette émission. Merci en tout cas pour ce choix musical. Nous sommes toujours en direct, en live et en public du Salon du Livre de Verneuil, Davre, Editon.
Principe actif.
à Breteuil-sur-Iton, 95.9.
Et nous poursuivons les rencontres, les échanges et les discussions avec ceux qui font ce salon du livre, bien entendu, auteurs, illustrateurs, organisateurs et peu et tous ceux qui œuvrent, hein, les associations également présentes. Et justement, Daniel, toi, tu es venu avec un nouvel invité. Alors Lily, le micro rouge, bah oui, bah voilà, c'est on rit, on s'amuse, il y a les enfants sur le plateau, il y a du gâteau, il y a un coup à boire. Essayez Lily, vous en oubliez de lever les micros. Daniel.
Oui, Guillaume Prévost, vous êtes, vous travaillez dans un laboratoire d'astrophysique, oui, au CNRS, oui. Et depuis 10 ans, vous écrivez des livres, des très beaux albums, à quatre mains, c'est-à-dire que vous êtes deux. Oui, deux amis depuis 10 ans, avec oui. votre meilleur ami. Alors, pour vous laisser vite la parole, c'est sûr, quand on voit votre album, il est particulièrement beau, il y a une beauté. Merci. Des illustrations. Décrivez-nous quelques pages et décrivez-nous un petit peu cette publication chez Milan, qui est bon, particulièrement esthétique.
Voilà, on a pris l'occasion avec David de publier ce documentaire graphique pour le cinquantenaire du premier pas sur la Lune. Et on a...
Je vais vous embêter, Guillaume, bien dans le micro, excusez-moi.
Bien sûr, bien sûr. Et on a cherché à traquer toutes les sensations, les impressions, les sentiments qu'avaient eu les acteurs, notamment les astronautes, au cours de cette aventure. On n'a pas fait que rechercher dans la bibliographie, on a aussi interrogé un collègue à moi qui est astronaute et qui nous a dit un peu ce que ça faisait d'être dans une fusée, de revenir sur Terre. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce documentaire où on décrit par exemple la réaction du public quand Kennedy annonce que l'homme ira sur la Lune et que les gens se demandent combien d'hommes il faudra engager, quelle hauteur devra faire la fusée. On décrit aussi les premières sensations des astronautes en orbite quand ils ont l'impression de flotter dans un bain d'étoiles. Et puis on raconte les premières difficultés, les premiers accidents, les premières craintes de ces astronautes qui avaient jusqu'ici jamais eu peur. Et puis voilà, on déroule le fil jusqu'à la mission Apollo 11 qui pose l'homme sur la Lune et les impressions d'Armstrong quand il pose le premier pied sur la Lune.
Alors les auditeurs ne le voient pas, pardon Daniel, mais les auditeurs ne le voient pas, mais vous êtes en train de feuilleter justement cet album là sous nos yeux. Moi ça ressemble étrangement à ce que j'appellerais un album qui se feuillette en famille, enfin c'est-à-dire qu'on va y trouver de l'information adulte, voilà le truc tout bête, je m'étais jamais posé la question de comment avaient réagi les gens quand Kennedy annonce qu'on va aller dans la Lune, voilà par exemple, enfin, sur la Lune pardon, ça fait partie des choses, je m'étais jamais posé la question et ça m'intéresse, mais en même temps les illustrations et la façon d'aborder finalement parlent aussi bien aux enfants. J'ai la sensation que c'est un truc qui se feuillette presque en famille, quoi.
Oui, je crois. Enfin, on a aussi essayé qu'il y ait une poésie qui parle à tous. On raconte aussi, par exemple, ce que ça a fait aux astronautes de voir pour la première fois la couleur de la Lune, quelle odeur avaient les échantillons de Lune quand ils sont rentrés dans la fusée. Voilà, des moments un peu poétiques comme ça qui peuvent parler à tout le monde.
La grande histoire sous l'œil de la petite histoire, finalement.
Et donc, c'est un vécu documentaire, en fait.
Hein, tout à fait.
Vous présentez bien comme ça.
Exactement.
Et vous le dites aussi que vous aviez envie, tous les deux, de vous centrer sur le ressenti des astronautes. Et alors, justement, ce ressenti, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Eh bien, d'abord, c'est quelque chose qu'ils avaient très peu exprimé. C'est des gens qui ont été formés à encaisser les coups durs, à ne pas éprouver la peur, ou en tout cas, évidemment, à surtout pas en parler. Et donc, on s'est aperçu que voilà, c'était par pépite qu'on les trouvait, qu'on pouvait les dénicher. Et donc, voilà, l'idée, c'était de les réunir. Et voilà, ça raconte un versant de l'histoire qu'on connaît beaucoup moins, qu'on connaît très peu.
Alors vous dites pépite, vous pensez à quelle pépite par exemple vous avez recueilli et que vous avez peut-être retranscrit ?
Alors j'ai déjà parlé de l'odeur de la Lune et de la couleur de la Lune, par exemple, sur le chemin du retour d'Apollo 17. Les astronautes ont passé toutes les heures du retour à parler de la couleur qu'avait la Lune pour eux. Mais à un moment auquel je pense aussi, c'est la première fois qu'ils ont vu la Terre, dans le cadre de la mission Apollo 8, la première fois qu'ils ont vu la Terre dans le noir de l'espace, fragile, ténue, et que ils ont eu ils ont pris l'occasion, ce qui n'était pas prévu, de prendre une photo pour le partager à tout le monde, et ça a donné pour le grand public la première prise de conscience écologique et la première prise de conscience que cette Terre qui abritait la vie, qui était si belle, elle était aussi particulièrement fragile. Mmh.
Alors vous êtes deux, c'est ce que vous disiez. Donc, comment cela se passe? Comment vous vous organisez? Comment se fait la trame? Voilà.
Alors, ça dépend un peu du format, parce qu'on a publié différents livres, on a publié des petits albums, on a publié des grands romans. Donc, ça dépend évidemment un petit peu du format, notre manière de s'organiser. Mais dans l'ensemble, ça commence toujours par l'un qui a une idée qu'il n'a pas trop creusée et qui vient discuter avec l'autre. Et là, on s'amuse, on imagine, on invente. Et puis celui qui veut se lance dans une première version qui est censée simplement ouvrir des possibles, qui n'est pas du tout censée ciseler ou définir un cadre très, très fermé. Et puis après, l'autre rentre joyeusement dans cette matière, et puis élague et puis on continue un peu comme ça. Et puis après, le plus dur, c'est la dernière version, la toute dernière, celle qu'on va garder. Mmh. Où là, il y a des débats, on peut avoir des débats interminables sur une virgule. C'est assez... Quand on rentre là-dedans, bon, voilà, on a appris à négocier chacun âprement.
Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail pictural aussi. Donc, il y a un travail de dessin, un travail d'écriture. Est-ce qu'il y a une répartition néanmoins des rôles, ou est-ce que c'est vraiment complémentarité du début de A à Z?
Non, je pense que David comme moi, on est très touche-à-tout. On aime bien chacun essayer de faire le maximum de choses. Donc, on essaye chacun de s'approprier le plus de choses possible et de faire des choses différentes. D'ailleurs, on publie des choses qui sont tout à fait différentes. On a publié un roman d'aventure sur une ruée vers l'or en Indonésie. On a publié un J'aime lire sur l'histoire d'un frère et d'une sœur qui grandissent. Le livre chez Milan sur la Lune. Et bientôt, on publiera chez Milan un documentaire graphique sur l'aéropostale. Voilà, on essaye de faire tout et de traiter tous les sujets.
Alors justement, j'ai une curiosité, l'équipe du travail, là où vous travaillez au CNRS, comment ils ont accueilli donc cette superbe publication?
D'abord, je les ai beaucoup interrogés. J'ai donc discuté beaucoup avec mon collègue astronaute de l'Agence spatiale européenne, et puis avec mon plus proche collègue. Et puis après, quand j'allais en conférence, quand je retrouvais mes collègues que je savais férus de cette aventure, je les ai mis pas mal à contribution. Donc ça s'est fait comme ça au fur et à mesure de l'écriture, des idées qui venaient, j'ai beaucoup beaucoup échangé avec eux, ils m'ont beaucoup aidé.
D'accord, donc on peut dire que c'était un travail à deux, mais aussi un travail collectif.
Ouais, c'est
finalement
ça, exactement. C'est tout à fait ça.
Et donc là, vous êtes peut-être sur un autre projet, vous disiez...
Oui, exactement. On fait plusieurs choses d'ailleurs. Avec Milan, on travaille sur un roman, un documentaire graphique du même format qui sera sur l'aéropostale. Et ça nous parle de passer de l'exploration spatiale à l'aéropostale, parce qu'il y a toujours cette composante d'élévation collective, de travail et de collectif vers un objectif qui élève toute une communauté. Et voilà, on travaille aussi pour les plus petits sur un roman qui expliquera avec des pop-up, des languettes et du papier la physique aux plus petits. L'idée, c'est d'essayer de faire comprendre les phénomènes physiques avec des animations papier. Voilà, on a différents projets de ce genre.
Merci, merci. On pourrait le prendre comme notre conclusion. Merci à vous, Guillaume Prévost.
Merci mille fois.
Et puis, vraiment, découvrons ce livre. Vraiment, je vous invite vraiment à le lire, le conserver. C'est un très bel objet. Merci à vous. Au revoir.
Mission Lune, merci beaucoup à vous d'être passé par nos micros. Je vais vous inviter, Sandrine et Daniel, de profiter de ce petit moment, le temps d'accueillir notre dernier invité au micro. Je vais vous proposer de prendre deux petites minutes pour nous parler de deux événements en particulier, à savoir les automnales que Daniel va nous expliquer dans un petit instant, et également les séances planétaires disponible à la médiathèque de Bourthe. Daniel, peut-être on te laisse commencer, okay, en nous expliquant un petit peu que sont ces automnales et qu'allons-nous y retrouver.
Alors, je l'ai ébauché rapidement tout à l'heure. Les automnales, c'est le 4, 5, 6 octobre, donc à Verneuil-sur-Avre, c'est à l'espace Saint-Laurent, et c'est le vendredi 4 octobre à 20h30. C'est Henri Agnel, dont parlait tout à l'heure JC, et les Menstriers. Et là, ça va être non seulement aussi lui et Henri Agnel, mais également Idriss et deux autres musiciens. Donc ça s'appellera les Folies Modales, concert médiéval, oriental, jazz. Ça dure 1h20. Et donc voilà, c'est à la fois la virtuosité, la délicatesse, on travaille la voix, et c'est des instruments anciens. Vraiment, ça va être un très très joli moment. Mais comme c'est un festival, il y a une deuxième journée. La deuxième journée, alors là, on change complètement d'horizon. C'est le Théâtre Zen, donc, de l'Orne, qui, la compagnie, qui propose une très belle soirée autour de l'étrange nuit. Alors, cette étrange nuit autour de cinq histoires d'auteurs normands, Flaubert, Mirbeau et Maupassant. Et les thèmes sont des thèmes autour de la Normandie, autour de l'amour, la mort, mais aussi la folie. Donc il s'agit du samedi 5 octobre, 20h30, toujours à l'espace Saint-Laurent.
Et il y a une troisième journée, Daniel.
Oui, il y a une troisième soirée. Alors là, c'est 18h cette fois-là. C'est dimanche 6 octobre et c'est Ben Herbert Larue, que certains ont peut-être déjà découvert. C'est au lendemain et c'est concert chanson française. C'est à la fois de la poésie, c'est à la fois poignant, lunaire, drôle. Ils sont trois musiciens et là, vous allez vraiment entendre un concert généreux, poétique. Et c'est effectivement le dimanche 6 octobre, 18h. Donc, ne ratez pas, c'est Festival des Automnales, 4, 5, 6 octobre à Saint-Laurent, à Verneuil-sur-Avre, et surtout réservé, puisque là, nous ne sommes pas dans la salle des fêtes, nous sommes à l'espace Saint-Laurent.
Merci, Daniel, pour toutes ces infos. Et avant d'accueillir notre dernière invitée, Sandrine, aussi un élément à ne pas louper.
Tout à fait. Donc nous sommes la médiathèque de Bourthe, donc la médiathèque Claude Danet à Bourthe, est partenaire du Salon du Livre. Et tout au long du mois du 18 septembre au 12 octobre, nous avons donc une exposition, La Normandie de Thomas Pesquet. Et parmi les nombreuses animations qu'on a pu faire durant ce mois, la dernière animation est un planétarium. Donc c'est mercredi prochain. Il y a trois séances l'après-midi, une à 14h30. Une à 16h et une à 17h30. Ce sont des séances d'une heure chacune. Les places sont limitées, donc je vous conseille de réserver. Il y a déjà pas mal d'inscrits. Donc vous pouvez réserver à la médiathèque au 02 32 37 42 54. Donc un planétarium, mercredi 2 octobre, après-midi. C'est gratuit pour les moins de 18 et c'est seulement 2 petits euros pour les plus de 18.
Eh bien, c'est parfait. Merci, Sandrine. Et nous poursuivons nos échanges, nos rencontres sur ce Salon du Livre pour sa 10e édition à Verneuil d'Avre, Éditon. Et il y a une auteure, du coup, que nous avons rencontrée tout à l'heure et qui aujourd'hui propose le livre La promesse d'une rose. C'est Bess McCarthy. Bonjour à vous,
bonjour,
Bess.
Merci de m'accueillir.
Et sur ce livre, il y a un petit intitulé tout en bas de page sur lequel il y a marqué pour public averti. Vous êtes auteur de littérature érotique.
Exactement. Si,
voilà. Ouais, un premier livre, Le secret des liens, en 2008, c'est ça, 2019,
juillet 2018.
2018, oui. Pardon. Bon, c'est moi, 10 ans de plus, 10 ans de moins. Ça se voit pas. 2018. Et aujourd'hui, avec La promesse d'une rose, donc dans un style érotique, comme je le disais tout à l'heure. Fait. C'est quand même un style de littérature un petit peu particulier, en tout cas, pas mettre dans toutes les mains, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Alors, la littérature érotique, alors on pourrait s'imaginer quelque chose de pas forcément bien écrit, quelque chose pour au bord de ce qu'on pourrait appeler la pornographie éventuellement, mais l'érotisme peut être très poétique.
Ah oui, complètement. Alors, tout à fait, ça dépend comment on le conçoit. Là, c'est de l'érotisme, mais c'est pas de la pornographie. Je ne critique pas ceux qui écrivent de la pornographie.
Oui, c'est un autre style. Après, c'est un autre style.
Voilà. Tout à fait. Dans mes romans, en fait, il y a toujours une histoire d'amour. Et c'est vrai que les personnages... ont des histoires d'amour et ça tourne forcément autour du sexe aussi. Dans La promesse d'une rose, ça parle beaucoup de ce que peuvent ressentir des personnes comme vous et moi qui vivent une rupture et qui essaient de se reconstruire après, en fait. Voilà.
Sur cette littérature érotique, finalement, c'est tout l'imaginaire aussi qui se met en marche, mine de rien, parce que quand on parle d'érotisme, alors forcément, on a les images, le visuel érotique en tête tout de suite, mais à travers la littérature, ça demande quand même d'aborder finement, en fait, cette question-là.
Oui, ça, il faut avoir... Faut prendre, des gants, si on peut dire. Comment expliquer ? Il faut réussir à trouver les mots pour que les lecteurs aient les images en tête, puissent se mettre dans la peau des personnages, être dans les situations. Voilà. C'est pas forcément évident, mais l'imaginaire fait les choses et après, les expériences personnelles peuvent aussi entrer en jeu.
Ça, c'est clairement, quand on aborde les questions de sexualité, on est en plein dans l'imaginaire. Enfin, ça facilite, il y a des liens avec l'imaginaire qui sont assez évidents, en principe. Quand on parle d'amour, quand on parle de sexualité, effectivement, le lien avec l'imaginaire est assez évident.
Oui.
Sur justement cette écriture particulière, ça oblige tout de même à avoir pour public averti sur une couverture. Comment c'est perçu ? Est-ce qu'il y a un lectorat particulier qui est à l'affût de ce type de lecture ? Comment ça se passe, le lien avec le lecteur, finalement ?
Alors, moi j'ai été très surprise lors d'une dédicace de voir que ça peut être n'importe qui, en fait. Ça peut être des ados. Moi, je ne le vends pas à des ados en dessous de 16 ans. C'est une volonté de ma part.
C'est une obligation légale ou c'est une volonté de se dire qu'ils ne sont pas prêts pour ?
C'est une volonté de ma part, en fait. Ayant moi-même des enfants de 17 et 14, je ne les vois pas dans cette lecture-là. Donc, on peut avoir des jeunes femmes ou des jeunes hommes, parce que ce n'est pas forcément que des femmes qui vont être attirées par ce registre-là. Et on peut avoir aussi des personnes bien plus âgées. Moi, j'ai eu un souvenir, un petit monsieur qui faisait un cadeau pour sa femme. Il devait avoir, 65, 70 ans. Donc, il m'a dit, ça la changera de ses lectures habituelles. Voilà, alors, c'est vrai que ça peut étonner sur le coup, mais pourquoi, en fait pourquoi pas ?
Il y a quelques années, il y avait un best-seller qui est sorti d'un petit peu, de 50 nuances de gris, notamment, qui a affolé l'actualité dans tous les sens. Ça aide, ça aussi, au bout d'un moment, qu'il y ait des best-sellers et que ça démocratise un petit peu ce type de lecture.
Peut-être. Moi, je pense que ça ouvre un peu. Les mentalités, peut-être. Comme c'est vendu dans des grands centres, pour pas citer de nom, peut-être que les gens se disent pourquoi pas aller, pourquoi pas on se lance, on va aller lire ça aussi, ça m'a bien plu. Je pense que ça aide aussi. Après, il y a beaucoup d'auteurs qu'on ne connaît pas qui sont très très bien aussi, et malheureusement qui sont pas publiés par des grandes maisons, mais
ça, ça ça pose la question de la diffusion également, ce type de roman. Alors forcément, les plateformes numériques, bon, en principe, on arrive à trouver, ce qui est le cas d'ailleurs pour La promesse d'une rose. Hein, on peut le retrouver sur les plateformes numériques notamment.
Oui, tout à fait.
Mais en boutique, c'est plus difficile.
Ah bah c'est compliqué, oui. Oui, parce que moi, je suis en auto-édité, donc je fais de l'auto-édition. C'est un choix, en fait, parce que j'ai envie de garder ma liberté de créer de A à Z mon livre, de choisir ma couverture, ma pagination, ma quatrième de couve. Voilà, tout ça, c'est de mettre les photos que j'ai envie de mettre dedans. C'est un choix. Après, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. On n'est pas distribué partout. Il faut faire sa com, sa pub. Voilà, c'est un gros travail.
Avec la littérature érotique, c'est peut-être plus difficile de pousser la porte qu'avec une littérature de polar
qui
est en somme toute classique.
C'est ça, oui.
Vous êtes de Tillières, sur-Ave, on dit toujours sur-Ave, parce que maintenant qu'on change tous les noms des villes dans le coin, je ne sais plus, c'est Tillières, Tillières-sur-Ave.
Bon, on dit tous Tillières, mais c'est Tillières-sur-Ave.
Donc vous êtes très, très local, en fait, comme auteur aujourd'hui sur ce salon du livre de Verneuil-sur-Avre. Un lien particulier avec le... Bah, du coup, j'en profite pour poser la question. Est-ce qu'il y a un lien particulier avec le territoire, là, du sud du département, un lien qui a été tissé entre vous et le coin, un lien entre le territoire et l'écriture éventuellement, ou à travers aussi ce que vous racontez, comment ça se passe? Pas du tout, hein, vous avez le droit de dire non, alors là je pourrais être Donald Duck, ce serait question, la même.
Le livre en question, non, il n'y a pas de lien particulier sur les lieux où ça se passe, etc. C'est plus Paris, on va dire, parce que là c'est un roman qui est contemporain.
Oui, le premier
se passe à l'époque victorienne, voilà. Et le dernier recueil, ben, en fait, regroupe plusieurs histoires, de petites nouvelles qui se passent à droite à gauche, mais non, l'histoire se passe pas dans le coin. Ça aurait pu, mais non.
Mais il y a un lien, vous, d'auteur, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, quand on creuse un petit peu dans le coin, on a eu l'occasion de faire un salon du livre également sur Danville, qui est juste à côté, sur lequel il y avait des auteurs locaux aussi. Et on se rend compte qu'en fait, il y a énormément d'auteurs un petit peu partout. Et peu importe les zones, en fait, hein, je ne sais pas s'il y a de l'interaction ou pas. Il y en a qui se mettent dans des endroits en particulier pour écrire, d'autres non. Enfin, je ne sais pas. Mon questionnement était très, très large.
Très large, oui. J'ai pas beaucoup de relations, on va dire. J'ai rencontré Martine Auffray, voilà, qui m'a gentiment interviewée pour La Dépêche, voilà. J'ai rencontré pas mal de personnes, du coup, en fait, comme une toile d'araignée, si on veut. J'ai rencontré Réa aussi, qui est photographe, et voilà, ça permet d'élargir un peu son champ de connaissances, mais... Travaillant moi sur Paris, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps dans le coin, un peu compliqué.
Très, très bien. D'autres choses sur l'ordinateur actuellement, pas tout à fait fini, ou
oui.
J'imagine que vous bossez à l'ordinateur, je n'allais pas dire à la machine à écrire,
hein. c'est fini.
On est d'accord.
Mais ça a son
charme. C'est très classe, ouais. Et puis ça, je trouve que ça mettrait une ambiance, vous avez écrit sur l'époque victorienne, on est sur une écriture érotique, voilà, on pouvait jouer avec l'imaginaire avec la machine à écrire,
mais non.
Ça bosse sur PC comme tout le monde. Du coup, il y a quelque chose là.
Je suis sur le tome 2 du Secret des Liens, en fait.
D'accord.
Voilà. Qui, j'espère, pourra sortir pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc, beaucoup de recherches, en fait, parce qu'à l'époque victorienne, c'est assez dense, complexe. Et puis là, j'aborde les maisons closes. Donc, c'est tout. Voilà, beaucoup de choses, de législation.
Il y a le besoin aussi de se documenter, j'imagine, notamment quand on est sur ces périodes-là assez anciennes. Finalement, on n'a pas les codes aujourd'hui dans notre...
C'est ce qui va prendre le plus de temps, on va dire, dans Le Secret des Liens. Ça me prend beaucoup de temps, des tout petits détails. J'ai un exemple, dans le tome 2, j'ai un des personnages qui entre dans une maison close, qui donne son manteau. Et on se demande, mais est-ce que les cintres existent en fait à cette époque? Et non, à 10 ans près, ça n'existait pas, donc il a fallu que... Voilà. Donc si on ne fait pas les recherches...
Ah oui, mais c'est du détail, mais qui a son importance pour être dans l'ambiance,
tout à fait.
Mine de rien.
Après, pour La promesse d'une rose, non. Il y a moins de recherches.
C'est plus contemporain, c'est dans la vie de tous les jours.
Chercher les rues de Paris, regarder les bistrots, voilà, ça va être plus ça.
Oui, c'est dingue ça quand même, se dire que ouais, à l'époque victorienne, le cintre, on est pile poil à, la, à l'articulation.
Près, non, mais c'est, voilà.
C'est un détail, mais qui est hyper essentiel.
Oui, c'est important.
Pour pouvoir écrire, effectivement. D'autres petits trucs croustillants là, sur l'époque victorienne là, qu'on apprendrait là. Une anecdote de recherche.
Une anecdote de recherche. Bah, en fait. Tous les jouets. Je ne sais pas si vous avez vu le film Oh My God. Le
non.
Film Oh My God.
Non, j'ai pas vu.
Et ben c'est l'invention quand même du vibromasseur à l'époque victorienne. Et moi, je conseille de vous regarder ce film. Il est vraiment très très sympa. On se marre beaucoup pendant tout le film. Il est léger, il est... Oui, non, il est sympa à regarder.
Ça veut dire que... pardon, j'insiste un peu, oui. Peut-être, mais ça veut dire que les sextoys, c'est lié à l'époque victorienne ?
Ben, c'est même lié même avant, parce que...
Ah oui, avant quand même, oui, oui.
Oui, enfin, avec la technologie de l'époque victorienne, ils ont fait exploser un peu... ils ont fait plein de tests, plein de... Voilà, plein de...
D'accord. Non, mais c'est à découvrir, quoi.
Voilà. Oui, à découvrir.
Très bien, merci beaucoup Bess McCarthy d'avoir échangé à nos micros.
Bah, merci de m'avoir accueilli en tout cas.
C'est La promesse d'une sympa. Rose actuellement disponible notamment en numérique, sur plateforme numérique.
Et en brochet.
Et en brochet aussi.
Sur plateforme
numérique pour la commande, voilà. Mais en tout cas récupérable là. Distribué dans le coin ou pas quand même en librairie?
Je n'y arrive pas vraiment en fait. Ouais. C'est D'accord. un peu compliqué. La réponse que j'ai, c'est qu'on n'a pas trop le public.
Très bien.
Oui. Mais je ne lâche pas, je continue, je persévère.
Très bien, bah merci beaucoup à vous Bess
McCarthy
d'être passé par nos micros. Bonne journée à vous aussi.
Merci.
Nous, ça nous amène sur la fin de cette émission, notamment pour conclure avec Sandrine et Daniel. Nous y voici, nous y voilà. Fin de cette. Ben en fait, finalement, on s'est dit. Sandrine, tu m'avais dit une heure, et moi, j'en fais pas deux. Hein. On est à plus de deux heures. Sandrine,
voilà,
tout
j'avais
va bien.
Dit à ma fille, Cécile, je te fais un gros bisou, je pense à toi très fort et je rentre bientôt. Je te
D'accord.
promets.
Voilà. Et finalement, tu as menti. C'est
non,
ça
Non, je lui fais une annonce.
Ah oui, d'accord. Ah oui,
je dis Cécile, je rentre.
Ah oui, d'accord.
Je laisse tomber JC et j'arrive à la maison.
Ah oui, d'accord. Donc en fait, tu fais. Voilà, bah, pas par un SMS, pas par un truc.
Non, parce qu'on n'a que le dimanche ensemble, donc c'est un peu compliqué.
D'accord, très bien. Bah, merci en tout cas, Sandrine, d'avoir échangé avec nous. On était bien, Daniel.
Oui, c'était
finalement.
Superbe.
Discuter avec vraiment. Des auteurs, hein, y a pire comme dimanche.
Oui, ça pourrait être pire, effectivement. D'autant plus que parfois, les auteurs font des cadeaux. Là, à l'instant, on baisse en partant en disant je vous laisse le livre pour que vous puissiez le découvrir.
Très bien.
Donc, voilà, il est à côté de toi, tu vois.
Ouais, c'est, hop, je mets le coup dessus.
Tu fais tourner, s'il te plaît.
Je le ferai tourner, mais
Merci.
Après.
Non, mais lis-le et patiemment, tu nous le passes après.
Très bien.
Mais c'était un joli moment. Merci à vous deux, vraiment. C'était un joli travail.
Eh bien, c'est parfait, alors. Eh bien, merci. Oui.
Oui, nous, on se retrouve dans 15 jours avec Délivrez-vous.
Voilà, le mardi.
Le mardi, de 13h à 14h.
De 13h à 14h, l'émission des bibliothécaires du sud du département.
De l'Eure.
De l'Eure,
du sud de l'Eure, c'est beau.
Du sud de l'Eure.
Voilà, super.
Et merci à Lily, qui a été d'une grande patience.
Oui, parce qu'avec nous, il en faut de la patience quand même. Hein.
Quand
on le dit pas aux auditeurs, parce qu'ils entendent ce qui se passe à l'antenne.
Non, mais elle est super, franchement, elle est super.
Bon, on va la garder alors, Lily.
Oui,
eh ben,
oui,
super.
Un gros oui.
Eh bien, Lily, on vous garde, c'est promis.
Lily, oui.
Merci, Daniel. Merci, Sandrine. On rend l'antenne et puis, restez à l'écoute de nos programmes. Ils sont tous super.
Merci, JC.
Merci. Au revoir.